Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, malgré les microbes qui arrivent. Voilà, nous allons reprendre le rythme plus régulier de nos cours qui va nous mener jusqu'aux vacances. Je vais commencer par résumer les points essentiels que j'ai abordé lors du premier cours, il y a maintenant 15 jours, ce qui nous mènera après, bien sûr, très rapidement, à ce qui nous occupera les deux prochains cours. Cette année, nous abordons la mécanique tissulaire sous l'angle de l'information qui l'organise. Et j'avais proposé deux grilles de lecture pour comprendre comment cette information opère dans les processus morphogénétiques. La première, qui est une vision de programme, dans laquelle on dit finalement que l'information fonctionne de façon hiérarchique, modulaire, à courte et longue portée, qu'il existe donc un réseau d'interactions qui résulte de toutes les éléments qui participent à cette information, et qu'il existe de nombreux paramètres pour décrire ce mode d'organisation, avec comme métaphore celle de la construction architecturale, mais on avait vu un certain nombre d'exemples en biologie du développement, qui illustre cette façon de penser l'information biologique. Et une autre grille de lecture, qui est celle de l'auto-organisation, dans laquelle il y a une économie de moyens importante, dans la mesure où seules des interactions locales et directes suffisent à voir l'émergence de structures extrêmement complexes, et donc les nombres de règles et de paramètres qui permettent de décrire ce système sont donc très limités. J'avais par ailleurs analysé deux formes d'information, l'une on va dire classiquement chimique ou biochimique, qui définit des longueurs et des temps caractéristiques, par exemple résultant de la diffusion ou du transport de molécules. Et dans ce schéma, on voit une information qui agit sur elle-même de nature chimique et qui contrôle la mécanique en aval. Mais la mécanique elle-même définit aussi des temps et des longueurs caractéristiques. J'avais donné deux exemples, la propagation d'une déformation en fonction de la viscosité et de l'élasticité d'un système, et également des longueurs caractéristiques, comme la longueur hydrodynamique dans un écoulement, avec la friction et la viscosité participant à ce processus. Et bien sûr, on peut penser la biochimie d'un côté et la mécanique de l'autre, mais la biochimie définit aussi des paramètres mécaniques, et donc ainsi elle agit et contrôle la mécanique, si l'on veut. Les paramètres, par exemple, d'un réseau d'actine contrôlent l'élasticité du réseau d'actomyosine, également par son taux de renouvellement, sa viscosité, donc des propriétés de matériaux. Elle peut également réguler les contraintes actives, par exemple par l'activité, la régulation d'un moteur moléculaire. Et en retour, la mécanique, par sa dynamique propre, peut affecter le transport de ses propres régulateurs, par ce qu'on peut appeler l'advection dans l'écoulement qu'elle génère. Par exemple, un réseau d'actomyosine, comme on le reverra plus en détail, en fait, peut transporter ses propres régulateurs. Et donc, une action en retour sur la biochimie. Par ailleurs, la mécanique peut induire des phénomènes de mécanotransduction, en quoi les contraintes et les déformations entraînent des effets sur les molécules, et donc la signalisation biochimique elle-même peut être régulée mécaniquement. Et enfin, la mécanique module aussi, on le verra de façon plus illustrée, la géométrie de l'environnement, par exemple sa polarité, etc., qui affecte aussi la façon dont la biochimie déploie son activité dans le temps et dans l'espace. Donc, il existe des interactions réciproques entre chimie et mécanique, de telle sorte que l'on peut voir l'information d'une façon plus complète et juste, en la voyant non pas simplement comme hiérarchiquement contrôlant la mécanique, mais comme elle-même étant de nature mécanochimique et agissant sur elle-même à des échelles de temps et d'espace variées dans la cellule ainsi qu'à l'échelle de l'organisme. Et donc cette grille de lecture que j'ai présentée lors de mon cours précédent devra être présente en trame de fond lorsque nous allons voir toute une série d'organisations spatiales et temporelles des processus morphogénétiques, et comme nous allons le voir en particulier aujourd'hui. Et donc, pour résumer, cette diapositive devra rester présente à votre esprit tout au long de ces cours, et en particulier, à gauche, résumer la vision programmatique dans laquelle une information contrôle de façon hiérarchique la mécanique, et une autre dans laquelle l'information mécanochimique agit sur elle-même et contrôle par auto-organisation la mécanique, la morphogenèse cellulaire et tissulaire. Alors, j'aimerais, dans ces quelques diapositives qui suivent, vous présenter maintenant très concrètement une phénoménologie qui illustre toute une série de dynamiques qui, à vrai dire, se sont révélées de façon plus importante ces dernières années, à mesure que les moyens de microscopie ont permis de regarder les cellules et les embryons in vivo avec une résolution spatiale et temporelle. Et je vais commencer par montrer en deux diapositives certaines phénoménologies pour après, finalement, en proposer une étude d'une façon structurée pendant les deux cours qui viennent. Et donc, à gauche, par exemple, vous voyez un tissu d'un embryon de xénope dans lequel vous allez voir la dynamique de la signalisation calcium. Et on voit d'abord l'apparition dans un site très particulier d'une signalisation calcium forte, puis sa propagation dans l'espace, très rapide. Vous avez le temps en secondes qui apparaît en bas à droite de ce film, et donc comme une vague d'activité qui se propage dans le tissu. On voit à droite, maintenant, quelque chose de beaucoup plus complexe. On pourrait croire comme la surface d'un fluide. En fait, il s'agit de l'activité d'une molécule, nous y reviendrons, ρ, qui est une molécule de signalisation qui contrôle, entre autres, l'activité d'un moteur moléculaire, myosine 2. Et on voit ici des instabilités spatiales et temporelles qui émergent. Et ici, c'est dans le cas d'un embryon d'oursin, mais de plusieurs grosses cellules, en fait, après fécondation, on voit ce type de dynamique corticale extrêmement complexe et remarquable. On peut maintenant regarder à une échelle un peu plus large, d'un tissu, comme en haut à gauche, cet embryon de drosophile, dans lequel vous voyez encore une dynamique dans la cellule et d'une cellule à l'autre, assez remarquable, et qui montre comme une espèce de coordination, en tout cas une dynamique en vague, qui se propage dans le tissu. À droite, vous voyez maintenant une cellule d'un embryon de souris extraite de son environnement natif dans lequel, de façon isolée, on peut voir, encore une fois, une dynamique propre et on reviendra en détail à la fin du cours prochain sur ce type de dynamique. Vous voyez bien que les cellules ne sont pas simplement caractérisées par leur forme, mais aussi par une certaine organisation temporelle de leur morphologie qui se manifeste sous forme de pulsations et de vagues. Et enfin, pour illustrer encore un embryon de xénope dans lequel on voit ici des cellules, on voit le cytosquelette d'actine et on voit ici encore une fois une dynamique pulsatile et en vague assez caractéristique qui montre finalement l'ubiquité de ces dynamiques spatiales et temporelles. Donc, voilà quelques exemples dans différents organismes qui montrent l'ubiquité de ces dynamiques spatiales et temporelles, de ce que l'on peut appeler des instabilités spatiales et temporelles au sens où partant d'un état homogène, stable, des instabilités apparaissent. Et donc ces instabilités s'auto-organisent, comme nous allons le voir, vraiment selon un schéma d'auto-organisation comme on l'a vu la dernière fois, et elles se manifestent dans le temps et l'espace. Donc vous allez voir un certain nombre de diapositives qui résument les choses ainsi. Dans l'espace, on peut voir donc une organisation spatiale, des agrégats qui se mettent en place. Nous allons voir, donc il s'agit donc de ces instabilités dites de Turing. Et puis dans le temps, des instabilités temporelles qui montrent que dans un endroit particulier, la dynamique n'est pas stable. En fait, elle évolue, par exemple sous la forme d'oscillation, mais la phénoménologie, là, est riche. On peut les étudier selon un schéma purement chimique, c'est-à-dire des activateurs biochimiques qui interagissent entre eux et qui produisent ces instabilités spatiales et temporelles. Il s'agira donc ici d'une auto-organisation dans un système hors équilibre de nature purement chimique. Mais, comme nous l'avons vu, la chimie contrôle également la mécanique, donc ces instabilités chimiques peuvent produire aussi des instabilités de nature mécanique, mais qui découleront naturellement des instabilités chimiques, selon un schéma hiérarchique. Mais en retour, comme nous l'avons vu, la mécanique peut réguler les processus biochimiques, je l'ai rappelé en introduction, et donc on peut imaginer que des interactions mécanochimiques participeront à l'émergence de ces instabilités spatiales et temporelles. Et donc on voit ici potentiellement une grande diversité de situations d'instabilité chimique, d'instabilité mécanique et d'instabilité mécanochimique dans le temps et dans l'espace. Et donc les deux cours qui viennent vont illustrer et apporter un schéma explicatif à l'émergence de ces instabilités en montrant la signification, l'impact développemental et en proposant finalement une grille de lecture générale qui transcende la réalisation spécifique chimique ou mécanique. Voilà. Donc voici le programme qui va nous occuper pendant les deux prochains cours. Aujourd'hui, nous allons aborder essentiellement les instabilités chimiques et le premier point des instabilités mécaniques. Puis nous viendrons sur une autre forme d'instabilité mécanique, verrons plus en détail les instabilités mécanochimiques pour finir par l'impact qu'elles ont sur les processus développementaux. Donc il y a une certaine unité dans ces deux cours et c'est pourquoi je vous propose de procéder par étapes en commençant par le cas le plus simple et aussi le plus ancien qui sont les instabilités chimiques. Ces instabilités chimiques ont été en fait proposées, elles sont maintenant associées dans l'esprit des gens à Alan Turing, qui dans son article fondateur en 1952, Les bases chimiques de la morphogenèse, donc Alan Turing, mathématicien, propose un article qui est donc une écriture proprement mathématique, mais étudiant les propriétés d'un système dynamique, comme nous allons le voir, de réaction-diffusion, montre en fait l'émergence d'instabilité, les étudie dans un cas particulier de façon analytique, puis par une simulation simple, en fait, montre l'émergence de structures qui sont connues comme les structures de Turing. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici une caractérisation. J'ai extrait des parties importantes dans l'introduction de cet article, que je vous invite naturellement à lire, dans lesquelles il y a finalement une description assez programmatique de tout ce qu'il faut pour caractériser un système biologique. Tout d'abord, donc, « The changes of position and velocity given by Newton's law of motion ». Donc là, on est vraiment dans un ancrage mécanique des choses. The stresses as given by elasticities and motions, also taking into account the osmotic pressures as given for the chemical data. Donc on voit ici une caractérisation aussi des stress, des contraintes. Bien sûr, les réactions chimiques en troisième point et en quatrième point, la diffusion des espèces chimiques importantes. Donc on voit ici un énoncé des quatre grands principes fondamentaux qui permettent de caractériser tout système mécanochimique, tout système biologique. Et de préciser, et je souligne en jaune ici les lignes importantes, l'interdépendance entre les processus chimiques et mécaniques, bien sûr, apporte une complexité accrue. Et donc, Turing décide de finalement étudier les systèmes dans un cas où la mécanique peut être mise de côté pour ne s'intéresser qu'aux processus chimiques dotés de réaction et de diffusion. Mais nous verrons plus tard qu'on peut aujourd'hui étudier en fait, les instabilités d'origine mécanique. Et d'ailleurs, quand je citerai une phrase dans la conclusion de l'article de Turing, on verra en fait, une certaine aussi vision un peu prophétique, en tout cas programmatique, de comment étudier ces aspects mécaniques. Donc commençons, comme Turing le propose, par l'étude des instabilités chimiques. De façon très générale, les systèmes de réaction-diffusion d'espèces chimiques peuvent être décrits comme en fait, un système dans lesquelles les espèces, ici on en présente une seule, diffusent, coefficient de diffusion D, et est douée d'une réaction qui peut être plus ou moins complexe. Voilà. S'il s'agit de deux espèces, on peut décrire cela par les coefficients de diffusion respectifs de ces deux espèces, U et V, et puis les réactions qui caractérisent leurs interactions. Encore une fois, plus ou moins complexes, et on pourrait potentiellement généraliser à N espèces. Ce diagramme représente un cas particulier qui est l'objet en fait, des études plus détaillées de Turing, qui est celui d'un activateur et d'un inhibiteur. Donc l'activateur en rouge, il y aura un code de couleur pendant ces cours, donc s'auto-active. Il induit aussi son propre inhibiteur en bleu. Voilà. Comme on voit ici maintenant dans une image extraite d'un film que je vous ai montré tout à l'heure, on voyait ces vagues dynamiques, on voit par exemple dans l'espace, effectivement, des instabilités émergées, représentées ici par ce diagramme, dans laquelle on voit par exemple une espèce en vert plus abondante que l'espèce rouge et réciproquement en d'autres endroits. Comme nous allons le voir, cela émerge des propriétés de diffusion de ces espèces, de ces activateurs et de cet inhibiteur. Et donc, Par ailleurs, dans cette zone-là, vous pouvez regarder, le film va se mettre en action. Vous allez voir que l'espèce plus abondante rouge, en fait, ne demeure pas plus abondante perpétuellement au cours du temps. Il y a aussi une évolution temporelle de la concentration locale. Donc, il y a aussi une instabilité dans le temps. Et donc, nous allons étudier séquentiellement les instabilités spatiales, puis les conditions qui produisent des instabilités temporelles, en prenant comme exemple ce cas extrêmement général, qui est celui d'un activateur qui induit son propre inhibiteur et qui s'auto-active lui-même, et les conditions qui génèrent ces instabilités spatiales et ces instabilités temporelles. L'article de Turing est absolument remarquable du point de vue de la démarche, du point de vue même de l'écriture, et le point central que l'on peut retenir et que j'annonce au début, c'est que Turing démontre en quoi les valeurs respectives des coefficients de diffusion de l'activateur et de l'inhibiteur, présentés ici, en particulier le fait que le coefficient de diffusion de l'inhibiteur soit plus important que celui de l'activateur, induisent en fait une divergence, si l'on veut, c'est-à-dire l'apparition d'instabilité dans la dynamique du système. Ce qui en soi est en fait tout à fait remarquable, parce que, et je vous montrerai tout à l'heure une image, imaginons des espèces mélangées de façon uniforme, et sans que l'on apporte quoi que ce soit, pas d'énergie sous la forme d'ATP par exemple, on voit spontanément des instabilités émerger. Donc la démarche de Turing, je vais en fait la reprendre étape par étape, parce qu'elle est à la fois très didactique et elle permet vraiment de saisir le raisonnement et la force de sa découverte. Donc finalement, contentons-nous d'un système à deux espèces, X et Y, qui sont dans une seule cellule. Voici les équations de la dynamique que propose Turing, non pas qu'elles soient spécialement réalistes d'un point de vue biologique, mais parce qu'elles ont, par les propriétés des coefficients, simplement des propriétés mathématiques simples qui permettent de raisonner. Voilà. Donc, n'attachons pas trop d'importance à ces valeurs. En particulier, on voit qu'avec ces coefficients, il y a un état stationnaire pour x et y sont égaux à 1. Ces équations différentielles, en fait, ne sont pas forcément simples à résoudre de façon analytique, donc il y a une approche récurrente, utilisée même aujourd'hui très abondamment, qui est en fait une approche de l'étude autour des états stationnaires, dans lesquels on étudie en quoi une petite déviation à partir de l'état stationnaire, petit x, petit y, et de réécrire finalement les équations différentielles, régissant en fait l'évolution temporelle de ces déviations, petit x et petit y, et voyant quelles sont les solutions de ce système. Donc, par exemple, cette équation différentielle admet des solutions sous la forme d'une exponentielle, avec ce coefficient lambda, et naturellement, la condition de la stabilité de ce système est que lambda est négatif, c'est-à-dire qu'en fait, petit x et petit y tendent vers zéro. Voilà. Donc, en réécrivant les équations différentielles en prenant la forme de ces solutions, d'accord, on voit bien que lambda en fait, va être une valeur propre de cette matrice de taux d'évolution du système, et que donc, elles seront la solution de ce polynôme, et en l'espèce, ici, on voit que lambda égale moins 1 est négatif, et donc le système est stable. C'est-à-dire qu'une petite déviation de x et de y va amener le système vers le point stationnaire x égale y égale 1. Donc c'est un cas extrêmement simpliste, mais qui illustre le type de raisonnement de stabilité linéaire qui permet de voir comment le système, autour de ces points stationnaires, en fait, est dans une configuration stable. Maintenant, ajoutons simplement deux cellules, et disons qu'elles interagissent entre elles par la diffusion des espèces x et y. Donc on a un coefficient de diffusion dx, un autre dy. On réécrit exactement sur le même raisonnement les équations différentielles avec les mêmes coefficients en ajoutant simplement le terme de diffusion. Alors on va être en simplement une dimension, d'accord ? Donc on va décrire le terme de diffusion avec la différence de concentration entre les positions, entre les cellules 1 et les positions et les cellules 2. Voilà, pour les espèces x et y. Encore une fois, les coefficients sont judicieusement choisis par Turing pour voir un unique état stationnaire dans lequel toutes les valeurs sont égales à 1. D'accord ? Et le point maintenant critique, et que l'on va voir tout de suite, c'est que la diffusion permet au système d'être potentiellement instable. C'est-à-dire que, en particulier, lorsque la valeur du coefficient de diffusion dy est très supérieure à dx, le système peut diverger, admettre donc des solutions qui... des solutions en fait, qui évoluent vers un état stationnaire différent de l'état initial. Alors, selon exactement la même approche que j'ai illustrée précédemment, on peut considérer en fait, les variations autour de l'état stationnaire, écrire, maintenant réécrire finalement le système d'équations différentielles décrivant la dynamique de ces variations en fonction du temps, Et on a une matrice de taux dans laquelle on voit bien apparaître maintenant les coefficients de diffusion dx, dy, d'accord, en plus des termes de réaction, ici les termes, les coefficients 5 et 6, en l'espèce, et 7. Et donc, encore une fois, en écrivant les solutions de ce système d'équations différentielles comme des solutions sous une forme exponentielle, dans laquelle lambda est ici présent, lambda, encore une fois, sont les valeurs propres de cette matrice de taux, d'accord. Et on voit bien, à partir de la forme de la matrice de taux, que finalement, la valeur positive ou négative de lambda va dépendre en fait, des valeurs relatives de dy et de dx. Alors, assez rapidement, pour une matrice 4-4, on voit bien que les valeurs propres sont un peu plus difficiles à calculer. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est très simple. Et donc, on peut avoir ici comment, fixant le coefficient de diffusion de l'activateur dx à 0,5 et faisant varier le coefficient de diffusion de l'inhibiteur, et en particulier le faisant augmenter, on voit bien que les plus grandes valeurs propres, ici, sont d'abord négatives en dessous de 1, puis 0, et après sont positives. Donc on l'est en rouge dans les régimes de valeurs de coefficients de diffusion respectifs de y et de x qui ont des valeurs propres lambda négatives, donc le système est stable, alors qu'ici on a une instabilité qui émerge en raison de la valeur positive des valeurs propres de cette matrice de taux. Et on voit bien que c'est d'autant plus important que le coefficient de diffusion de y est plus important que celui de x, comme on peut le voir ici. Donc voilà ici, résumé, finalement, la caractéristique essentielle du système, c'est qu'une grande coefficient de diffusion de y par rapport à x induit une instabilité spatiale. Alors maintenant, on peut raisonner de façon plus complète, bien que ce soit toujours en une dimension. On voit maintenant une série de cellules connectées les unes aux autres avec exactement les propriétés que l'on a vues dans la diapositive précédente. Encore une fois, on peut écrire de la même façon les coefficients, l'évolution du système autour d'un état stationnaire grand X et grand Y en voyant l'évolution temporelle des déviations autour de cet état stationnaire, en retrouvant les termes de réaction, les termes de diffusion en une dimension, d'accord ? Et on peut étudier donc l'évolution de ce système. Ici, les solutions de ces équations différentielles sont représentées sous la forme d'une exponentielle avec un terme de fluctuation, lambda, qui est périodique. D'accord ? Et le point qui est important, c'est de voir finalement dans quelles conditions ce système, en fonction de lambda, ce système évolue. Et je passe toutes les étapes intermédiaires qui sont décrites dans l'article, dans lesquelles la matrice de taux en fait, peut s'approximer sur une matrice sous cette forme-là, étant donné la forme de ces équations, de ces solutions de ces équations. Et à condition que lambda soit supérieur à 1, on peut simplifier les équations, faire disparaître les exponentielles, avoir quelque chose de cette forme-là qui est beaucoup plus sympathique. Et en particulier, on peut voir maintenant qu'en fonction de la valeur de lambda, les valeurs propres en fait, de cette matrice de taux en fait, ont des valeurs négatives, puis très rapidement positives. Et le point qui est important, c'est que ces valeurs positives sont toutes différentes. Et donc, comprenons ici que, en fonction finalement de la longueur d'onde de la perturbation, d'accord, il y a certaines valeurs propres qui vont dominer par rapport à d'autres. Et celles qui vont être les plus importantes vont amener la divergence du système vers cet état instable le plus rapidement. D'accord. Et donc, finalement, en fonction, on voit naturellement le système évoluer vers la situation dans laquelle, pour ces différentes longueurs d'onde de perturbation, le système va le plus rapidement adopter en fait, une organisation spatiale, elle-même périodique. Et donc, ici, on voit une propriété remarquable, c'est que des patterns vont émerger avec une longueur d'onde caractéristique. Et pour vous illustrer cela, une petite simulation fait très bien l'affaire. On voit voir ici, dans le film que je vais vous montrer, peu importe ici les paramètres qui vont évoluer, mais ici, on va voir en bas à gauche une grande concentration de l'activateur. Ici, on va augmenter la concentration de l'inhibiteur. Ici, inversement, on va avoir une très faible concentration de l'activateur. On va voir que le système, donc, quand vous allez voir du jaune, vous allez penser beaucoup d'activateurs et en bleu, très peu d'activateurs. Et à partir d'une situation homogène initiale, où finalement la concentration, comme vous allez voir, est homogène, on va voir des instabilités émerger. Et si on le regarde ici en particulier, s'il y a beaucoup d'activateurs par rapport à l'inhibiteur, le système reste dans un état actif. Si en revanche on augmente la concentration de l'inhibiteur, on va avoir en fait des zones d'exclusion de l'activateur, d'accord, des espèces de formes en bande de motifs puis qui, à mesure que la concentration de l'inhibiteur augmente, vont générer en fait des structures en fait punctiformes, espacées, avec une certaine longueur caractéristique. Donc voilà ici l'illustration en deux dimensions de ce que l'on a vu dans la diapositive précédente, et qui dépend en fait des valeurs relatives, entre autres, des concentrations d'inhibiteurs et d'activateurs, mais également des coefficients de diffusion et puis des termes de réaction. Donc là, je ne rentre pas dans les détails de cette simulation, mais simplement, on a vu dans le cas précédent, dans la diapositive précédente, le principe dans lequel les coefficients de diffusion respectifs de l'activateur et de l'inhibiteur induisent ces instabilités et des motifs différents. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur des exemples très précis dans lesquels les motifs de Turing, ces instabilités, en fait, participent au processus de développement. Il y a quelque chose de très classique qui a été vu il y a longtemps, dans lequel, faute d'avoir identifié les acteurs, les espèces notamment chimiques impliquées dans ces motifs de pattern, mais en tout cas une phénoménologie qui s'apparente aux instabilités de Turing, c'est naturellement les motifs de pigmentation, de dimension. Voici un article qui propose une comparaison de simulations à droite et à gauche de données biologiques qui montrent comment différents types de pigmentation sur les pelages de mammifères en fait, peut s'expliquer en termes de modification de paramètres d'instabilité de Turing. Avec notamment ici ce qui est remarquable, la grande diversité de motifs qui peut émerger. Voilà. Donc c'est un système qui est très simple, mais dans lequel il y a une très grande diversité de formes qui peuvent être générées en fonction des paramètres du système, des termes de réaction et des termes de diffusion. Mais la condition essentielle à l'émergence de ces instabilités, c'est vraiment l'existence de coefficients de diffusion différents pour l'inhibiteur et l'activateur. C'est ce que met en évidence très clairement Alan Turing dans son article. Alors, l'article d'Alan Turing étudie tout un grand nombre de situations différentes d'un point de vue mathématique. Seule l'une d'entre elles, en fait, semble avoir un lien fort avec les systèmes biologiques. C'est pourquoi il a retenu l'attention des biologistes, sinon tout de suite, en tout cas dans les décennies qui ont suivi. Mais dans les années 70, Hans Meinhardt, indépendamment de Turing, ignorant en fait l'article de Turing, a redécouvert ces instabilités spatiales et les a étudiées donc sous l'angle en fait de ce qu'il appelle une excitation locale et une inhibition globale du système. Excitation locale, inhibition globale renvoie au fait que les coefficients de diffusion de l'activateur et de l'inhibiteur sont différents. C'est en vertu du fait que l'inhibiteur a une diffusion plus importante que l'activateur qu'il permet une inhibition globale du système. Donc, dans cet article, qui finalement est beaucoup plus facile à lire pour un biologiste, en ce qu'à la fois il décrit les systèmes d'équations différentielles qui gouvernent la dynamique de ce système représenté au centre, mais montre beaucoup mieux que ne le fait Turing, parce qu'il est lui-même peut-être plus directement lié, intéressé par la biologie que ne l'était Alan Turing, montre en quoi, en fait, au niveau cellulaire comme au niveau tissulaire, ce type d'instabilité peut être avoir une signification, un pouvoir explicatif de l'émergence de structures organisées. Donc on revoit ici, alors c'est un exemple d'équation différentielle dans laquelle on voit une contribution. Donc on a ici les espèces activateurs et inhibiteurs avec le même code de couleur en rouge et bleu. On voit ici décrit le fait que donc, l'activateur se produit lui-même. Il y a un terme non linéaire, il y a l'effet inhibiteur de l'inhibiteur. Les deux espèces aussi se dégradent et diffusent. D'accord ? Il y a aussi un taux de production basale qui est important pour faire que le système ne parte pas de zéro. Et l'inhibiteur, est dépendant en fait, de l'activation, est induit par le propre activateur, en rouge. Donc ce qui est remarquable, c'est qu'encore une fois, alors en 70, les ordinateurs sont plus puissants que dans les années 50, et donc Hans Meinhardt étudie de façon beaucoup plus systématique les types de motifs qui émergent suivant les paramètres du système. Et dans son article donc, de 1972, 20 ans après Alan Turing, j'extrais ces deux diagrammes qui montrent finalement que, par exemple, dans un cas où le coefficient de diffusion de l'inhibiteur est particulièrement important, la longueur, finalement, vous vous souvenez, la longueur de ces motifs qui émergent dépend des paramètres du système, dont le coefficient de diffusion. On voit ici en fait, qu'il y a une grande instabilité qui émerge. On voit l'émergence d'un gradient. Vous vous souvenez, dans le cours précédent, on avait parlé des morphogènes, de ces gradients de concentration. Voilà exemple comment en fait, peut se générer lui-même un gradient de morphogène comme en fait, résultant d'une instabilité de Turing, dès lors que finalement la longueur caractéristique de la diffusion est grande en fait, par rapport à la taille du système. Voilà ce que l'on obtient ici. Donc on a les distributions de l'activateur et la distribution de l'inhibiteur ici. si l'on réduit en fait le coefficient de diffusion de l'inhibiteur, toutes choses égales par ailleurs, en fait quand celui-ci est faible par rapport à la taille du champ dans lequel se produisent ces réactions, à ce moment-là on a des motifs périodiques qui apparaissent, c'est-à-dire que finalement ce qu'on a représenté ici à une grande distance se retrouve ici à une plus courte distance. Voilà. Mais c'est le même phénomène qui apparaît. Donc vous voyez apparaître ici une situation de brisure de symétrie, apparition de ce qu'on pourrait appeler un morphogène, et puis ici, au sens gradient de concentration, et ici, l'apparition de motifs périodiques dans un système. Voilà. Donc finalement, pour représenter aussi graphiquement ce que l'on vient de représenter par excitation locale, inhibition globale, voyons en fait qualitativement ces trois états en fait, dans l'évolution du système, avec ici simplement les espèces. Au début, on a une distribution homogène des molécules rouges et bleues. L'activateur, en fait, pour des raisons liées à des fluctuations, par exemple localement, va être au-dessus d'un certain seuil. Et en raison de cette boucle autocatalytique qui le voit amplifier sa concentration, comme on peut le voir ici, l'activateur va augmenter sa concentration. Il va aussi induire son propre inhibiteur, mais comme l'inhibiteur diffuse plus rapidement, il va éteindre une activation qui pourrait apparaître à une certaine distance de cette activation locale, d'accord, et ne pas empêcher l'activation déjà induite en rouge ici. Et donc le système s'amplifier et inhiber à une plus grande distance l'émergence d'autres états actifs. En revanche, il y a une certaine longueur caractéristique en fonction de la diffusion de l'inhibiteur, donc cela n'empêche pas, à une certaine autre distance, l'apparition d'autres activations. Alors, la force de l'article de Hans Meinhardt est aussi de montrer potentiellement le champ d'application de ce type d'instabilité. En particulier, de le voir potentiellement s'appliquer au processus macroscopique multicellulaire, en particulier pour des raisons qui sont liées à son propre intérêt sur le développement de l'hydre, et à partir de structures dissociées, de réagrégation et de formation en fait, de ces tentacules qui sont caractéristiques de la morphogénèse de l'hydre, et d'étudier la périodicité de ces tentacules et de vouloir les expliquer potentiellement par les instabilités de Turing. Voilà. En tout cas, c'est une proposition faite dans son article au début. Également, il mentionne, c'est tout à fait remarquable, que le même formalisme pourrait s'appliquer pour expliquer les instabilités. Donne un exemple, non pas maintenant une polarisation d'un tissu, mais la polarisation d'une cellule. Seule l'échelle change, mais par exemple, une cellule, un neutrophile qui serait attiré par une bactérie, en tout cas qui détecterait une molécule diffusée par la bactérie, pourrait en fait produire localement une réorganisation de notre cytosquelette en réponse en fait, au signal. On verrait ici une auto-activation locale, une inhibition à distance selon un motif de Turing, et ceci serait le prélude à la polarisation morphologique de cette cellule qui donc pourrait migrer vers la bactérie. Voilà. Donc le champ de polarisation cellulaire comme celui de la morphogénèse tissulaire peuvent tous les deux être des champs d'application aux instabilités de Turing selon ce modèle d'excitation locale, inhibition globale. Alors, il y a une autre forme que peut prendre cette instabilité de Turing, dans laquelle, au lieu de dire qu'on a un inhibiteur de l'activateur, on va avoir un substrat qui peut être déplété, c'est-à-dire que sa concentration va chuter en raison de sa consommation au fur et à mesure de la réaction, et lorsque le substrat ne sera plus là, l'activateur ne pourra plus fonctionner, donc on aura un effet inhibiteur et un négatif feedback de facto. Donc on voit ici les équations qui permettent de décrire ce type de comportement, notamment le fait que B en fait, est utilisé comme substrat dans la réaction, et puis on a aussi dégradation, diffusion de ces espèces. Et également, ici, donc, la description de l'évolution de la concentration de B, qui dépend bien sûr de A, donc de son propre activateur, mais qui dépend aussi de la réaction, donc il y a une inhibition. Il y a aussi un phénomène de saturation qui est décrit par ce terme ici, et vous voyez qu'avec ce système de réaction, qui est assez intuitif, hein, on voit bien que la consommation d'un substrat, sa disparition, aura un effet inhibiteur. C'est d'ailleurs quelque chose qui est utilisé pour décrire, par exemple, la dynamique des écosystèmes, prédateur-proie. Si jamais le prédateur n'a plus de proie, eh bien, il ne va plus pouvoir se reproduire, il y aura un effet en retour qui va induire en fait, une disparition locale du prédateur. Mais le prédateur disparaissant, la proie va pouvoir de nouveau se mettre à se développer. Donc aussi condition d'une instabilité temporelle, nous y reviendrons. Donc ce schéma est aussi extrêmement important et il y a un certain nombre de champs d'application biologique dans lesquels celui-ci est beaucoup plus approprié que le système activateur-inhibiteur. Voilà. Et on voit ici par exemple une simulation en 2D de Maynard dans son article, dans lesquels il montre comment, ici, les concentrations respectives de l'activateur, d'accord, et du substrat sont anticorrélées l'une à l'autre, avec ici, au cours du temps, l'évolution du système. Donc, quelque chose qui, formellement, ressemble énormément. Donc, rappelons-nous, deux modalités, activateur-inhibiteur avec des coefficients de diffusion différents, ou alors activateur-substrat, substrat qui est déplété, avec encore des coefficients de diffusion différents. Vous vous souvenez, dans le cours précédent, je vous avais montré en illustration des systèmes auto-organisés, sans parler nommément de Turing, un article qui montrait l'organisation de fourmilières de Guy Terolaz à Toulouse, notre collègue de Toulouse, et qui a popularisé et étudié sous l'angle des instabilités de Turing l'émergence de structures dans les fourmilières. La dernière fois, c'était un système qu'on pouvait représenter sous la forme d'un activateur-inhibiteur, au sens où la température jouait sur la concentration de la phéromone qui induisait un positif feedback. Ici, on voit ici donc au cours du temps l'émergence de petits tas de fourmis mortes, parce que les fourmis mortes ne sont pas laissées à l'abandon, elles sont récupérées, elles forment des petits tas, et il y a un système autocatalytique, parce que les fourmis aiment bien déposer des fourmis mortes là où il y a déjà des petits tas de fourmis mortes. D'où l'amplification de ces tas, et il y a des longueurs caractéristiques de ce système. Et à partir du moment où il n'y a plus de fourmis mortes, il y a donc déplétion du substrat, il y a une réorganisation de l'espacement entre ces différents tas de fourmis. On le voit ici au cours du temps, dans une arène de 25 cm, par exemple, avec 100 fourmis mortes, on voit au cours du temps l'augmentation du nombre de petits tas, puis après leur disparition, jusqu'à un état stationnaire qui correspond, en fait, et qui dépend lui-même, d'accord, ses valeurs respectives dépendent de la concentration du nombre des fourmis mortes. Alors on voit ici une variation de la taille de l'arène, entre là et là, et puis de l'augmentation dans une arène fixe du nombre de fourmis mortes. Et donc on voit ici phénoménologiquement la comparaison des données expérimentales et un modèle de Turing, résumé ici, dans lequel on va voir la diffusion liée au fait à la dynamique, modélisée comme aléatoire des fourmis, et puis un terme qui correspond à, je ne caractérise pas ce qu'il y a ici, mais de déplétion du substrat en fonction de sa consommation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de fourmis mortes, la dynamique du système va elle-même s'inhiber. Donc ici, un exemple dans lequel ce type de schéma fonctionne bien. Alors nous avons vu ces instabilités spatiales. Maintenant, nous allons voir comment on peut aussi générer des instabilités temporelles extrêmement riches. Et pour cela, reprenons le même schéma d'un activateur autocatalytique, d'un inhibiteur du système. Mais maintenant, nous allons voir les conditions dans lesquelles une instabilité temporelle peut émerger. On a le même système d'équations que l'on a vu précédemment. Mais finalement, maintenant, le point important, c'est de voir, c'est non plus les coefficients de diffusion différents de l'activateur et l'inhibiteur qui vont importer, c'est en fait les vitesses des réactions. Intuitivement, on voit bien que si la réaction autocatalytique de l'activateur est beaucoup plus rapide que l'inhibiteur, à ce moment-là, une émergence locale, la production locale de l'activateur va précéder l'apparition de l'inhibiteur, mais la concentration de l'inhibiteur avec un délai va inactiver le système en retour et induire donc une évolution temporelle de la concentration de l'activateur. Donc c'est l'existence d'un délai, d'accord, dans la production de l'inhibiteur en raison d'une réaction plus lente, qui est la source de ces instabilités temporelles. Il est aussi important, en tout cas dans le système d'équations décrit par Hans Meinhardt, de voir que le taux de dégradation de l'inhibiteur doit être plus faible que celui de l'activateur pour voir émerger, dans ce cas-là, ces instabilités temporaires. Et le point important, c'est que ces propriétés induisent ce qu'on appelle une période réfractaire, c'est-à-dire la période pendant laquelle l'inhibiteur domine. Il va avoir un temps caractéristique à cette période réfractaire qui, en fait, correspond au temps nécessaire pour la disparition, par diffusion ou dégradation, les deux conjugués, de l'inhibiteur. Et cette période réfractaire est un trait caractéristique de ces systèmes dits excitables. On va voir leur forme de bistabilité, d'excitabilité ou même d'oscillation. Alors, déjà, j'aimerais vous montrer la diversité des conditions biologiques dans lesquelles ces instabilités temporelles émergent. Le cas très classique de ces systèmes excitables et de propagation d'une information, c'est en fait la propagation du potentiel d'action. Vous savez que pour transporter une information en biologie, on peut diffuser, mais si la distance est trop grande, comme c'est en racine carrée, en fait, ça va être très très lent. Donc, par exemple, le temps pour qu'une molécule diffuse le long des plus grands neurones de l'organisme, ça va être plusieurs dizaines d'années. Donc, il y a une modalité qui est en fait le transport aussi, qui peut être très rapide, hein, avec les moteurs moléculaires, mais la forme de loin la plus efficace, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, qui sont ces instabilités temporelles dans les systèmes excitables, dans lesquels nous allons voir comment une propagation peut être extrêmement rapide, et la forme la plus rapide, c'est celui du potentiel d'action. On voit ici le schéma biologique qui correspond à cette notion d'activation avec un positive feedback très rapide, d'accord, et d'une inhibition avec un retard. Donc ici, une réaction rapide et une réaction lente. D'accord. Ici, ce dont il s'agit, c'est la dépolarisation de la membrane. Et la diapositive suivante revient rapidement dessus. J'aimerais, dans cette diapositive, vous montrer finalement que, par exemple, les ondes calciques que l'on peut voir dans un embryon de xénope, dans un œuf fécondé, répondent aussi à ce type de schéma dans lequel il y a un positive feedback dans l'activation du calcium très rapide et une inhibition plus lente liée au pompage des ions calcium. Vous allez voir dans ce film à droite l'apparition en fait, de ces ondes calcium, leur propagation en vague à travers l'embryon, hein, qui font quand même plusieurs millimètres chez les xénopes, donc c'est une propagation extrêmement rapide. Et puis un troisième cas remarquable qui est la propagation en vague de l'activité mitotique dans ici un embryon de xénope. Alors ici, les auteurs étudient l'extrait de xénope dans un tube en une dimension pour illustrer de façon plus visible l'émergence progressive de vagues d'activation d'une extrémité à l'autre. On voit le film progressivement, donc les marquages en histone du noyau, on voit ici apparaître maintenant des instabilités temporelles dans lesquelles l'activité se propage d'une partie à l'autre. Elles ne sont pas homogènes, elles ne sont pas aléatoires, elles sont organisées dans le temps. Donc on voit ici, dans des cas différents, à des échelles de temps et d'espace différentes, des propagations temporelles extrêmement rapides. Et je vous renvoie à cette revue qui fait une analyse comparative remarquable de ces systèmes excitables. Dans le cas du potentiel d'action, vous savez bien qu'en plaçant des électrodes le long d'un axone, on peut voir la propagation temporelle de ces dépolarisations, et en particulier en regardant l'état des transporteurs des canaux sodium et potassium, on voit en fait des états actifs, ouverts, pardon, d'états fermés, et une inactivation des récepteurs. Ces états actifs, ouverts ou inactifs dépendent en fait de ces termes de réaction, hein, avec des positive feedback très rapides et un effet avec retard, avec délai de l'inhibition. Et ces processus biologiques ou biochimiques élémentaires et leurs interactions dans ce réseau, donc d'activation-inhibition avec retard du négatif feedback, induit en fait, comme on va le voir, cette dynamique temporelle. Donc voilà le processus le plus ancien, mais je voulais illustrer le fait qu'il s'applique à des cas extrêmement différents, notamment au cours de la morphogenèse. Alors il y a un modèle qui a été développé pour étudier le gain du potentiel d'action, qui est extrêmement utile, un peu comme l'a été en fait le système d'équations de Turing, pour expliquer la dynamique du système. Encore une fois, nous allons étudier un peu en détail, mais il ne s'agit pas de retenir la forme particulière de ces équations. Un grand nombre d'équations d'évolution de l'activateur et l'inhibiteur conviennent et sont parfois mieux adaptées pour étudier l'émergence de ces instabilités temporelles. Mais ici, on voit de façon très visuelle les conditions donnant naissance à ces instabilités temporelles. Et donc ici, on va avoir un activateur U et un inhibiteur V. On voit ici bon, la caractérisation de ce système avec une activation rapide de l'activateur par lui-même. Et ici, une production de l'inhibiteur par l'activateur qui est plus lente. Le terme epsilon très inférieur à 1 est en fait la garantie d'une réaction plus lente ici que dans le terme de l'activation. Donc on a un positive feedback, très clairement. Il y a aussi un négatif feedback extrêmement rapide de l'activateur, mais également la production de cet inhibiteur avec ce fameux délai extrêmement important, epsilon très inférieur à 1. Dans ce système d'équations complexes, l'approche consiste à étudier, encore une fois, l'état stationnaire, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles la variation au cours du temps est nulle. On a donc ici de nouvelles équations, et la façon très puissante de représenter la dynamique du système et d'avoir ce qu'on appelle un diagramme de phase dans lequel on peut représenter U et V, d'accord, et en fait la dynamique du système. D'accord. Alors ici, on trace ce qu'on appelle les neuklines, c'est-à-dire les conditions de l'état stationnaire de U en fonction de V. Et par exemple, cela donne naissance à cette courbe en S très particulière, d'où l'importance de ces coefficients, hein, notamment ce terme moins U au cube, qui permet en fait l'émergence de cette forme en S très caractéristique. Donc ça, ça correspond à la ligne pour laquelle dU sur dt égale 0, pour différentes valeurs de V. Et inversement, on va avoir la neuklines pour V, et on voit ici deux courbes. Et en fonction du terme B, on va voir ici l'évolution de sa valeur, on peut avoir différentes conditions apparaître. Et en particulier, quand B est grand, ces deux courbes s'intersectent en trois points dans lesquels le système est à l'état stationnaire. Et on peut faire une analyse de stabilité linéaire pour montrer que deux de ces points sont des points stables, en noir, et un est un point instable. Admettons par exemple que le système évolue à partir d'ici, on voit l'évolution de la concentration de U en fonction de V, le système va rapidement donc, augmenter sa concentration, puis la baisser et arriver vers un point stable qui correspond à l'évolution fixe, nulle, de la concentration de U et de V. Voilà. Et en même temps, la concentration de V baisse, puis arrive vers l'autre point stable. Donc c'est un système bistable dans lequel l'activateur et l'inhibiteur évoluent vers des concentrations différentes qui restent stables au cours du temps. Si par contre on modifie simplement le paramètre B, on le réduit, à ce moment-là, c'est donc la pente de cette courbe qui va évoluer, et à ce moment-là, on aura bien de nouveau trois points d'intersection, mais un seul donnera naissance à un point stable en noir, les deux autres sont des points instables. Et donc dans ce cas-là, on a dans le diagramme de phase une augmentation de la concentration, puis son évolution vers l'état stable de la concentration, alors que l'inhibiteur, lui, arrive directement vers cette concentration. Et le point important, c'est que, contrairement au système bistable, on a un pic d'activation qui, après, retourne vers zéro et qui n'évolue plus. Donc finalement, on a on appelle ce système excitable parce qu'il est excité temporairement et redevient et relaxe vers un état inactif. Voilà. Donc c'est une activation temporaire. Et le troisième point, c'est quand la valeur de B est plus faible, on voit encore une autre dynamique remarquable apparaître, c'est-à-dire que le système admet des cycles limites d'évolution dans lesquels l'activateur comme l'inhibiteur en rouge et en bleu, on le voit très bien ici au cours du temps, on le voit également sur ce diagramme de phase, une évolution, il n'y a plus de points stables en fait dans cette configuration et le système en fait évolue de façon régulière et oscillatoire. Donc on voit bien ici un système dans lequel l'existence d'une réaction lente de production de l'inhibiteur permet en fait une dynamique riche et ce sont des paramètres subtils du système. Alors ici un terme B qui en fait peut s'interpréter dans le cadre du potentiel d'action comme un paramètre biologique, mais enfin finalement, il est très difficile de relier B à une valeur particulière, par exemple pour l'étude du cycle cellulaire, comme je vous montrais, ou les ondes calciques. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'apporter une trop grande importance à la signification biologique de ces équations dans le cas de propagation du cycle cellulaire ou des ondes calciques, parce qu'en fait, le modèle n'a pas été développé pour cela. J'ai choisi de représenter ce système parce qu'il est très connu et il illustre de façon remarquable comment un système peut évoluer dans un état de bistabilité, d'excitabilité ou d'oscillation, en fonction de paramètres subtils en fait, que l'on voit dans les équations différentielles. Il y a plein d'autres modèles, plus ou moins compliqués, qui donnent naissance à des réactions rapides et des réactions lentes, dans lesquelles les termes du système donneront également l'existence de points stationnaires stables, deux pour la bistabilité, un seul ou aucun, avec aussi des cycles d'oscillation du système. Alors maintenant, on a vu oscillation spatiale, perturbation temporelle. Voyons maintenant l'intégration des deux. Alors, j'ai choisi ce film parce qu'il a eu une certaine visibilité lorsque ces expériences de chimistes ont été faites, ce qu'on appelle les instabilités de Belousov-Zabotinsky, dans lesquelles des espèces chimiques mélangées, naturellement, produisent des instabilités spatiales et temporelles avec des ondes progressives que l'on va voir dans ce film. Voilà, donc vous voyez ici des choses assez remarquables, et on se demande vraiment comment ce système apparaît. quand cet article a été soumis, l'observation de ce phénomène a été caractérisée au début, les gens disaient cela viole le second principe de la thermodynamique, c'est impossible, et donc je crois que l'article a été même rejeté. Alors on sait maintenant, et Turing a apporté au moins un modèle d'explication simple à ce genre de choses, ces choses extrêmement remarquables et belles, en fait, se produisent naturellement considérant, par exemple, le jeu de deux espèces, activateur inhibiteur. Alors ici, le système est beaucoup plus compliqué. Hein. On a trois espèces au moins, avec des équations beaucoup plus compliquées. Mais néanmoins, je voulais simplement vous citer cet exemple classique et surtout vous montrer que ces ondes progressives apparaissent avec donc l'émergence d'instabilités spatiales et temporelles et dont on sait en fait qu'elles sont présentes en biologie. Alors justement, et en continuant sur l'étude de ces systèmes excitables, ajoutons maintenant ce qu'il manquait, c'est-à-dire le terme de diffusion. On retrouve les mêmes équations que tout à l'heure, les termes de réaction, et on ajoute maintenant simplement un terme de diffusion. On va dire que c'est le même coefficient de diffusion pour les deux espèces, l'activateur et l'inhibiteur. Et l'on voit ici donc une représentation dans l'espace et dans le temps, ce qu'on appelle un chymographe. Et en absence de diffusion, bah c'est ce que nous avons vu précédemment, hein, il y a, en l'absence de réaction de diffusion, le système donc, actif localement n'évolue pas. Si on ajoute le terme de diffusion, bah naturellement, l'espèce activée en fait, va diffuser, se propager, et puis finalement s'éteindre, parce que l'espèce va être complètement diffusée. Donc voilà un état extrêmement inintéressant, mais qui montre en fait, d'une certaine façon les choses bien connues des lois de diffusion, par exemple. Mais maintenant, lorsqu'on a bistabilité, des conditions de bistabilité du système, en l'absence de diffusion, c'est ce que nous avons vu, il y a activation rapide et évolution vers un état stable, une concentration élevée de la molécule. Si maintenant on ajoute simplement cette condition en termes de diffusion, donc comme on le voit ici, à ce moment-là, les zones de l'espace qui n'avaient pas d'activateur vont en avoir, vont, en raison de la bistabilité du système, évoluer au-delà d'un seuil vers l'activation, en rouge, d'accord, et elles-mêmes aller vers cet état stable, en orange, et puis elles vont, de proche en proche, activer toutes les différentes zones de l'espace jusqu'à l'activation de tout le domaine et l'existence donc, de cet état stable, orange, pas simplement au point de départ, mais dans toutes les zones de l'espace représentées ici en une dimension. Donc on voit ici une propagation en vague qui a la forme donc d'un V dans ce chymographe. Dans un cas d'un système excitable, même principe, sans diffusion, on a activation puis inactivation du système, donc le système meurt. Mais si on ajoute un terme de diffusion, cette dynamique ici se retrouve et se propage de proche en proche et donne ainsi l'existence en fait d'une activation, d'un train d'activation qui se propage latéralement par diffusion, mais qui ne perdure pas parce que c'est un système excitable et non pas un système bistable. Et enfin, dans un régime oscillatoire, on va retrouver la même dynamique, c'est-à-dire un système qui, une fois qu'il a été inactivé, peut se réactiver lui-même parce qu'il n'existe pas d'état stable, le système est simplement dans un cycle limite. Et cette dynamique se propage de proche en proche. Donc on trouve cette dynamique, comme on peut le voir d'ailleurs, le film des instabilités Belousov-Zabotinsky est un cas qui représente ça, c'est-à-dire localement une activité oscillatoire et qui se propage dans l'espace au cours du temps. Donc, voyons plus en détail quelles sont, dans le schéma que nous avons vu, notamment dans ce diagramme de phase, quelles sont les conditions qui permettent et pourquoi finalement ce type de propagation se produit. Finalement, dans un cas simple où le coefficient de diffusion est, disons, d'une valeur 1, donc faible, s'il n'y a pas de réaction, l'activation se produit, des zones de faible concentration vont profiter de la diffusion de l'espèce active, d'accord, et donc vont augmenter transitoirement la concentration, s'il y a un peu de diffusion, mais le système va mourir en fait, très rapidement, en fait, en raison même de la diffusion, et il va mourir d'autant plus vite que le coefficient de diffusion est important. Voilà, en augmentant le coefficient de diffusion, le système en fait, s'éteint très rapidement. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici une petite activation, mais par diffusion, en fait, on est en dessous du seuil et le système en fait, meurt. Ajoutons maintenant le terme de réaction, qui est celui qui est vraiment important. Et là, en fait, on voit toutes les caractéristiques du système émerger. C'est-à-dire qu'à des concentrations de diffusion, à des coefficients de diffusion faibles, l'activation va pouvoir se propager. La diffusion permet à des régions adjacentes de l'activation initiale de passer le seuil critique d'activation et en vertu des propriétés autocatalytiques du système et par exemple dans un régime de bistabilité comme on le voit ici, activer de proche en proche des régions de l'espace et qui vont se propager jusqu'à occuper tout l'espace. Donc finalement, voyons que la diffusion, d'accord, permet au système de, à des régions initialement inactives de passer le seuil critique d'activation. Et sans la diffusion, elles ne peuvent pas passer ce seuil critique d'activation, mais les fluctuations de départ ne le permettent pas. Donc c'est pour ça en fait que la diffusion est si importante dans ce cas-là. Si en revanche la diffusion est trop importante par rapport au terme de l'auto-activation du système, le système peut s'éteindre. Comprenons par là que, vous voyez, il y a ici un terme de diffusion qui permet l'activation et il faut un certain temps caractéristique pour activer le système dans un état en rouge. Si la diffusion est trop importante, le système peut se relaxer vers un état d'inactivation, c'est ce qu'on voit ici. Donc l'élément critique, finalement, ce sont les temps caractéristiques respectifs de la diffusion et de la réaction autocatalytique, celle de la bistabilité ou de l'excitabilité. Si jamais le système est très longtemps à s'auto-activer par rapport à la diffusion, d'accord, ben le système va mourir, ne va pas pouvoir s'activer. Inversement, si le système s'auto-active très rapidement par la diffusion, eh ben on est dans les conditions dans lesquelles la bistabilité va pouvoir se propager à tout le système. Donc finalement, le point important à retenir, c'est ce que j'ai mis en rouge ici, c'est le temps caractéristique relatif de l'activation autocatalytique et de la diffusion. Et on peut, en cela, même définir en fait une vitesse de propagation de cette activité qui va être dépendant en fait, de ce coefficient de diffusion, D, et du temps de doublement de la réaction autocatalytique. Et ce ratio en fait, définit donc en racine carrée une vitesse, qui, alors on peut faire les calculs et voir par exemple que dans le cas, on peut retrouver la vitesse, grosso modo, de la propagation des potentiels d'action d'un neurone. Donc ici, suivant les termes de diffusion et de réaction, d'accord, leur valeur relative, on peut avoir toute une gamme de propagation. Et le fait remarquable ici, ce n'est pas l'espèce qui diffuse de bout en bout, c'est simplement la propagation d'un état réactif du système. Voilà en fait l'essence de ces systèmes excitables. Et ce qui est tout à fait remarquable et peut-être peu intuitif, c'est que ce couplage entre réaction et diffusion permet en fait une propagation bien plus vite qu'en fait les espèces chimiques, à des distances beaucoup plus grandes. L'autre caractéristique remarquable de ces systèmes excitables est le fait qu'à partir de fluctuations stochastiques dans un milieu tout à fait homogène, on voit apparaître spontanément des structures organisées. C'est ce qu'on voyait très bien dans le film de Belousov-Zabotinsky. Le système est homogène, on ne voit pas les fluctuations, mais on les imagine en fonction de la température. Et finalement, localement, il va y avoir un certain nombre de fluctuations. Si l'on dépasse le seuil critique d'activation, le système va pouvoir s'emballer, s'activer. Et avec des fréquences d'activation différentes en différents endroits, le pacemaker va être celui qui va avoir la fréquence la plus haute. Et on le voit apparaître alors dans ces simulations, dans lesquelles on voit à partir de fluctuations initiales l'émergence de points d'activation. Donc c'est un système maintenant ici oscillatoire, hein. On voit au cours du temps activation, inhibition, etc. On voit la propagation au cours du temps et la structure s'organise. Au début, on a des fluctuations. Et rapidement, on voit en fait un point principal devenir un pacemaker qui entraîne l'ensemble du système. On le voit bien dans les simulations, mais des expériences, par exemple, sur le cycle cellulaire, dont je vous parlais tout à l'heure chez Xenop, montrent très bien, c'est un article dans Nature de James Ferrell, la citation est ailleurs, mais cette revue en fait, y fait référence naturellement, on voit petit à petit apparaître des pacemakers, ces zones montrées par les flèches qui en fait, organisent et dominent l'ensemble de la dynamique du système. Donc, en résumé, ces systèmes excitables ont des propriétés qui d'ailleurs permettent expérimentalement de les identifier, d'en voir la trace. Le premier, c'est l'existence d'un seuil critique d'activation. Il faut passer ce seuil critique d'activation pour que le système devienne dans un état bistable, excitable ou oscillatoire. En dessous, il ne sera pas excité. Le deuxième, c'est l'auto-organisation de trigger waves, de ces ondes progressives qui se propagent dans le système. Il n'y a pas de master control qui organise dans l'espace et le temps ces ondes. Elles se produisent d'elles-mêmes, des équations qui régissent l'interaction entre les réactions entre activateurs et inhibiteurs et leur diffusion relative. En fait, ici, même la diffusion relative ne compte pas. On a vu qu'on avait un seul terme de diffusion, D commun pour les deux. Le troisième point très important, c'est l'existence d'une période réfractaire. C'est-à-dire, en fait, tant que l'inhibiteur est présent, tout activateur qui rentrerait dans cette zone, en fait, ne pourrait pas propager son activité en raison de la présence de l'inhibiteur. Donc, il va être important de... cette période réfractaire correspond au temps de disparition, en fait, de l'inhibiteur du système par dégradation ou diffusion. Et cela se voit très aisément lorsque l'on voit la collision entre des vagues, entre des ondes côte à côte. Elles vont s'annihiler en raison de l'entrée dans la zone réfractaire. Et on le voit très remarquablement dans ces systèmes de pigmentation de coquillages, sur lesquels je vais revenir rapidement. Voyons ici, vous voyez ces chymographes où on voyait le temps et l'espace. Un coquillage, c'est exactement ça. Il y a ici le temps, ici il y a l'espace en une dimension. Pensons à un coquillage qui en fait se produit des nouvelles concrétions et une pigmentation chaque jour, chaque année, à cette extrémité-là. Et donc on a ici en fait la trace dans le temps de l'activité d'un activateur, pigmentation brune par exemple, et d'un inhibiteur, pigmentation blanche. Meinhardt, dans ce livre remarquable, étudie très en détail la diversité des motifs de coquillage et propose une lecture unifiée en fait de ces motifs en termes d'instabilité Turing et de système excitable, exactement dans les termes que je vous ai présentés. Et par exemple, ici, on retrouve les motifs dont j'ai parlé, de ces V. Ici, on voit ici l'apparition d'une activation au-delà d'un seuil, donc l'initiation d'un processus d'activation. Ici, on a un système excitable, c'est-à-dire qu'après activation, le système s'éteint. Et il y a une propagation dans le temps correspondant, en fait, dans l'espace correspondant, en fait, à, si c'était des espèces chimiques, la diffusion d'une espèce, par exemple. On voit ici ces propagations selon des ondes latérales. On voit aussi une autre caractéristique, c'est l'annihilation. Donc, en suivant le code de couleur ici, on voit par exemple que ces ondes vont s'annihiler. Quand deux activations se rencontrent, en raison de l'entrée dans une zone réfractaire, le système s'inhibe et on voit l'extinction de l'activation. On le voit de multiples reprises au cours de l'histoire de ce coquillage ou alors de celui-ci. Donc ici, trois caractéristiques phénoménologiques imprimées comme un chymographe dans la coquille de coquillage. Alors, dans ce livre remarquable, Meinhardt montre comment en fait, les coquillages présentent toute la diversité des formes attendues pour un système excitable, à savoir, par exemple, comme on l'a vu juste précédemment, ces structures en V, avec l'émergence à multiples reprises d'initiation au-delà d'un seuil, de propagation et d'extinction par des ondes qui vont rentrer en collision l'une avec l'autre. Et ici, en fait, un système qui est plus caractéristique d'une bistabilité, c'est-à-dire une fois activation, pendant un certain temps, l'activation demeure. On voit ici une simulation numérique et un détail qui montre ici l'activation là d'un seuil, sa propagation dans l'espace. Le système reste dans un état bistable, c'est-à-dire qu'il est activé. Et tout d'un coup, il y a une extinction rapide du système pour des raisons qui ne viennent pas naturellement de la description que j'ai faite du système, mais enfin qui s'observe visiblement. Et on peut même voir dans les différents motifs de coquillage les différents types d'instabilité dont nous avons parlé jusqu'à présent, à savoir des instabilités temporelles où au cours du temps on a activation, inhibition selon des oscillations, mais il y a une synchronisation spatiale de toutes les activités au sens où on a des lignes au cours du temps très quasi continues. Et puis il y a ici un exemple totalement inverse où il y a des instabilités spatiales, c'est-à-dire qu'à un instant donné, dans l'espace, on voit des motifs périodiques d'activateurs et d'inhibiteurs. D'accord ? Donc là, ce sont des formes un peu extrêmes d'instabilité temporelle ou d'instabilité spatiale. Les cas de V que j'ai montré avant montrent leur combinaison très riche dans les motifs de coquillage. Et par exemple, ici, dans les simulations numériques, on peut voir qu'on peut passer d'un système synchronisé spatialement d'oscillation, d'accord, dont l'origine est en fait la diffusion, le couplage spatial lié à la diffusion des espèces, si c'était des espèces chimiques qui médiaient ce type d'interaction. Et puis, la conversion vers un système d'instabilité spatiale dans lequel il suffit simplement de réduire le temps de vie de l'inhibiteur qui, à ce moment-là, empêcherait la synchronisation et donnerait naissance à des instabilités spatiales dont la longueur caractéristique dépend des valeurs respectives de diffusion de l'activateur et de l'inhibiteur, comme nous l'avons vu précédemment. Donc ici, la beauté, c'est vraiment de voir toute une série diverse de phénoménologies et des simulations numériques moyennant les systèmes d'équations décrivant la dynamique du système, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Alors, pendant longtemps, les gens se sont dit, c'est merveilleux, motif de Turing, système excitable, on a tout un système qui permet d'expliquer les pigmentations des coquillages, et on s'attendait, finalement, et les biologistes en bon droit se demandaient, mais quelles sont les espèces chimiques qui médient en fait, ces interactions ? Alors, si l'on est chimiste, on va être déçu parce qu'en fait, il y a un papier très récent montre en fait qu'il ne s'agit pas d'espèces chimiques activateurs-inhibiteurs. On va voir que c'est autre chose. Mais la force du modèle de Turing, c'est de montrer qu'indépendamment de la réalisation spécifique, par exemple sous forme d'espèces chimiques, ces instabilités peuvent néanmoins se produire. D'accord ? Donc il y a quelque chose de très abstrait dans la description de Turing qui était mathématicien et qui en fait transcende finalement les modes de réalisation qui peuvent être chimiques. Et comme on va le voir, ces types de réalisation maintenant est en fait sous forme de réseau d'activité de neurones. D'accord ? Et comme nous allons le voir plus tard, on peut même retrouver ce type d'instabilité dans les systèmes purement mécaniques. Alors cet article récent, hein, 2009, bon, ça fait quand même une dizaine d'années bientôt, mais enfin par rapport à Turing c'est récent, un article absolument remarquable décrit en fait l'histologie finalement de la production de pigments sous un coquillage. On voit ici en fait la coquille, on voit dessous un épiderme, un épithélium, et à l'extrémité, donc là le temps c'est ancien et récent, donc il y a un axe temporel ici, on a des cellules sécrétrices qui sont elles-mêmes activées par des cellules sensorielles, représentées ici par ce tissu en bleu, qui sont des neurones. Et ces neurones font quelque chose d'absolument remarquable. Ils scannent la pigmentation du coquillage plus ancien, donc c'est comme une tête de lecture, et il y a ici un réseau de neurones organisé spatialement, ici on a simplement une section, qui va traduire, convertir l'activation passée de pigmentation en un motif spatial d'activation des cellules sécrétrices, au sens où il va diriger la production de pigments à tel ou tel endroit. Ici, on est dans une section, mais imaginez que le coquillage, d'accord, ici, okay, correspond à une structure qui se dirige vers vous dans cet axe et plus en profondeur. Donc ici, on a fait une section à travers le coquillage. D'accord ? Donc par exemple, ces cellules sécrétrices ici pourraient recevoir l'instruction de produire le pigment, alors que des cellules plus en arrière ou en avant pourraient recevoir l'instruction de ne pas produire de pigment. Donc finalement, le motif spatial de sécrétion de pigment dépend du motif spatial d'excitation des neurones ici. Et donc, on peut produire un réseau de neurones dans lesquels on va avoir, en vertu des interactions qui, comme on le sait, peuvent être à courte ou longue portée, peuvent avoir les mêmes attributs d'auto-activation locale et d'inhibition à grande distance. La réalisation serait différente, mais on retrouvera le même formalisme qui est au cœur des processus de Turing, et ce que l'on peut voir ici, dans lequel, au cours de l'espace, le long de l'espace ici en une dimension, on a production d'une activité excitatrice en rouge et d'une inhibition latérale en bleu. D'accord. Et donc, conversion d'activité d'un réseau de neurones selon des motifs, un terme d'auto-activation locale et d'inhibition globale, comme on l'a vu avec Turing et Meinhardt, produit en fait des systèmes de pigmentation. Alors finalement, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais on le comprend bien. Quand on regarde la coquille d'un coquillage, on voit comme la traduction en 2D de l'histoire de ces activités neuronales, un peu comme l'électroencéphalogramme. Et donc, pensez la prochaine fois que vous verrez un coquillage, que vous voyez l'électroencéphalogramme, rudimentaire certes, mais néanmoins remarquable d'un coquillage. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on le voit, certes, il n'y a pas d'activateur inhibiteur chimique, mais il y a des réseaux d'activateurs et d'inhibiteurs qui se réalisent dans un réseau d'interactions neuronales qui formellement produit exactement le même type de dynamique et d'instabilité qu'on l'a vu pour les systèmes de Turing. Et je pense que là, ce n'est pas... c'est pour cette raison aussi que je voulais développer un peu ce point-là, c'est de montrer qu'il y a quelque chose de très général et que, comme toujours, en biologie, il faut à la fois la description de réalisation biologique et puis le formalisme général qui permet de saisir les propriétés vraiment essentielles du système qui décrivent son organisation spatiale et ses dynamiques. Et c'est l'interaction entre les deux qui permet une compréhension fine du système. Un autre exemple d'instabilité spatiale serait de regarder ce qui se passe dans une bactérie. Ici, Escherichia, une bactérie. On voit ici, ce n'est pas Escherichia coli en fait, il y a l'oscillation qu'on peut voir ici de molécules, MND, et en fait, qui oscille entre les deux extrémités. Cette oscillation en fait, permet de définir le milieu de la cellule en raison du fait que cette molécule MND en fait, recrute une molécule MINC qui est un inhibiteur d'un élément du cytosquelette qu'on appelle FATZ, ici en bleu. Et donc la concentration la plus faible de cette molécule va être, de MINC va être au centre, ce qui va permettre en fait l'augmentation de la concentration de FODSI. Donc ici, dynamique temporelle donne naissance à un motif spatial qui est la concentration du molécule essentielle à la division cellulaire au centre de la cellule. Et ici, en fait, on retrouve les propriétés d'un système autocatalytique. Mende, en fait, s'auto-active lui-même. Il recrute son propre inhibiteur, MinI, d'accord ? Et MinI, en fait, en rouge, s'associe à son activateur et la dissociation des deux se produit en même temps. On peut voir ici, sur la droite, des expériences qui finalement reproduisent avec in vitro les extraits de ces cellules et voient, en fait, comment se manifeste en 2D la dynamique de ce système, dans lequel on peut voir la concentration locale de MinD et de MinE, en rouge et vert, qui se propage au cours du temps. Et on peut voir ici, dans ce graphe, spatialement, l'augmentation de la concentration de MinD, qui induit celle de MinC avec retard, de MinE avec retard. Et puis après, au-delà d'un seuil, le système se désassemble, les deux en fait disparaissent du système. On a une longueur caractéristique de ce système qui dépend de la concentration de l'inhibiteur. Quand l'inhibiteur MinE augmente, on voit la longueur d'onde finalement de ces propagations qui se réduit, ce qui est aussi assez intuitif. Alors, des petites simulations qui ont été présentées dans cet article remarquable de Petra Schwiller il y a quelques années montrent qu'on peut finalement modéliser ce système en voyant donc ici les espèces s'associant et se dissociant à un certain taux. Et on peut en fait calculer la vitesse de propagation de cette onde en termes des valeurs respectives d'association-dissociation, des coefficients de diffusion et de valeurs de concentration des molécules. D'accord ? Ici, voilà les valeurs numériques entrées. Et on voit ici, dans ce modèle en une dimension, l'évolution de la concentration de MinD et de MinE et le collapse du système. Les valeurs en fait, obtenues dans ces simulations de vitesse de propagation de l'ordre de 0,7 microns par seconde ne sont pas très loin, et en fait, dans la fourchette des valeurs observées in vitro, ce qui indique que voilà un type de modèle qui assez simple, qui saisit les caractéristiques essentielles de la propagation spatiale et temporelle d'un système qui, dans son contexte natif, rappelons-le, je l'ai dit au début, permet de définir le milieu de la cellule. Donc on voit en fait ces motifs spatio-temporels utilisés de façon très diverse. Donc voilà en fait qui résume donc les instabilités chimiques. Et ce que j'aimerais faire maintenant pour finir, c'est de voir comment, dans des systèmes purement mécaniques, on peut retrouver, certes d'une façon différente, le même type de propriété, c'est-à-dire des instabilités spatiales apparaître. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous allons voir finalement un cas, je ferai aussi un historique de ces instabilités mécaniques, et de voir comment elles ont été étudiées et comment elles permettent d'expliquer l'émergence de structures spatiales de façon tout à fait inattendue. Je vous propose de repartir de Turing et en fait de la fin de son article. Donc dans son article en 1952, on peut voir ce constat. Hein, « One cannot hope to have any very embracing theory of such processes ». En fait, c'était l'intégration. Quand on a écrit les équations différentielles de ces systèmes, elles sont extrêmement complexes. On ne peut pas les résoudre analytiquement. Turing le fait dans un cas où la géométrie est suffisamment simple pour qu'il puisse le faire mathématiquement, mais d'une façon, dans n'importe quelle cellule qu'on pourrait considérer, en fait, on ne peut pas résoudre ces équations. Donc aujourd'hui, on a des ordinateurs, et Turing, de façon assez prophétique, on sait que c'est aussi lui qui est à l'origine des ordinateurs, dit « It might even be possible to take the mechanical aspects of the problem into account as well as the chemical when applying this type of method. » Et ce type de méthode, ce sont en fait « digital computer ». Donc en fait, c'est assez remarquable qu'il en fait, il aussi prophétise l'utilisation de simulations numériques pour en fait prédire la dynamique du système telle qu'on peut la décrire par les systèmes d'équations différentielles. Parce que finalement, aujourd'hui, les études que nous allons voir et dans les, maintenant et dans les cours suivants seront illustrées par l'apport d'une description physique du système, la description des équations qui régissent leur dynamique et l'utilisation de simulations numériques avec les mesures de paramètres biologiques pour véritablement tester la dynamique du système. On le verra encore mieux la prochaine fois. Donc voilà encore maintenant ici en deux couleurs les dynamiques spatiales et temporelles de filaments d'actine en rouge et de l'activateur de ces filaments d'actine en vert, Rho1. Donc maintenant que nous avons vu ces instabilités spatiales et temporelles chimiques, on peut les analyser maintenant dans les systèmes purement mécaniques, et aujourd'hui nous allons voir les instabilités spatiales. Elles peuvent elles-mêmes émerger d'une régulation directe de la mécanique par la chimie, ou alors de réactions rétroactives de nature mécanochimique. Alors, je vais illustrer en fait l'émergence d'instabilités spatiales et temporelles de nature mécanique, purement mécanique, en considérant deux cas. Celui que nous allons voir aujourd'hui, c'est un modèle viscoélastique qui en fait décrit la motilité cellulaire. D'accord ? Et on verra comment on peut retrouver l'équivalent d'un inhibiteur global du système, dans ce système-là. La prochaine fois, nous verrons en introduction, au début du cours, un modèle maintenant hydrodynamique dans un gel actif, dans lequel on peut retrouver aussi une autre forme de matérialisation de cet inhibiteur global. Voilà. Donc le but de ces deux illustrations, c'est de voir comment on retrouve un activiteur autocatalytique et comment on retrouve l'équivalent d'un inhibiteur à grande portée, qui est finalement l'essence d'un système de Turing. Alors j'aimerais revenir à un article ancien, dans les années 80, il y a des articles absolument remarquables, et Albert K. Harris est un biologiste qui a découvert une méthode simple pour observer les forces de traction de cellules exercées sur un substrat. C'est dans les années fin 70 qu'il a publié dans Nature un article qui décrivait de façon non quantitative les replis sur ce substrat observé au microscope et qui sont les premières mesures de traction force, c'est-à-dire de force de traction des cellules sur leur substrat. Albert K. Harris, c'est aussi la personne, pour ceux qui étaient au cours l'an dernier, qui avait apporté cette description extrêmement précise et une critique en tout point exacte du modèle d'adhésion différentielle de Steinberg. C'est vraiment quelqu'un d'absolument remarquable et j'aimerais ici mettre en avant ses travaux pionniers en termes de mesure de traction de force et de l'étude des contributions mécaniques à l'émergence de structures spatiales dans les processus développementaux. Donc, les expériences de Harris et ses collègues consistaient à distribuer de façon aléatoire sur un substrat des cellules mésenchymateuses. Ils observaient au bout de quelques jours, 6 jours, ces agrégats qui se formaient spontanément avec des tailles caractéristiques, des espacements caractéristiques. Et vous voyez que donc là, on est en 84, et il voit tout de suite l'analogie fondamentale avec les motifs de Turing. À une époque où les gens qui faisaient l'étude des motifs spatiaux, chez la drosophile en particulier, c'est le grand boom de la génétique moléculaire chez la drosophile, ignoraient totalement Turing et Meinhard, parce que comme on l'a vu la dernière fois, la segmentation, l'émergence de structures spatiales chez la drosophile est un exemple d'organisation programmée, mais non pas auto-organisée à la Turing. Et observant qu'il y avait un impact de la concentration des cellules mésenchymateuses, en particulier qu'augmentant leur concentration, les motifs étaient de plus en plus gros, il y a cette espèce de description extrêmement qualitative qui n'est pas tout à fait exacte du reste, comme on va le voir, mais qui enfin montre une tentative d'explication qualitative du processus. L'idée maîtresse est de dire qu'en fait, des cellules qui sont sur ce substrat vont s'agréger localement, on va voir exactement de quelle façon plus tard, mais en réorganisant la matrice autour d'elles, elles déforment la matrice qui favorise la migration de cellules vers cet agrégat déjà formé. Un peu comme on l'a vu tout à l'heure formellement des fourmis qui aiment déposer des fourmis mortes sur le tas déjà existant. Ben là, les cellules en fait aiment amplifier localement l'activation parce qu'elles vont réorganiser la matrice qui fait forme une espèce de guidage de la migration cellulaire. Et la déplétion, la réduction de la concentration de cellules à proximité, d'accord, définit à la fois une certaine longueur caractéristique et en particulier, elle peut générer une fluctuation dans la densité de cellules locales qui peut générer en fait une nouvelle pente et générer en fait l'émergence d'une nouvelle activation autocatalytique dans laquelle les cellules ici agrégées vont guider d'autres cellules. Et de proche en proche, il peut y avoir une propagation. C'est une explication très qualitative. On va voir dans les articles suivants comment Albert Harris et ses collègues physiciens en fait, ont raffiné très précisément cette notion. Ils l'ont précisé. Je présente ici les 3 articles fondateurs. Pour ceux qui sont mathématiciens ou physiciens, voilà les 2 articles qui décrivent vraiment en détail les théories sous-jacentes. Je me suis permis de présenter des équations qui paraissent très très complexes et en fait j'aimerais simplement décrire qualitativement ce qu'il y a derrière parce que c'est important pour voir en quoi on retrouve les choses qui sont semblables à Turing. Donc ici, on a les lois de conservation des cellules, N, et de la matrice sur laquelle ces cellules migrent, ρ. D'accord ? Ici, on a simplement un terme, alors ce qu'il appelle convection et qu'on appelle aujourd'hui advection, c'est-à-dire ici on a eu le déplacement, le vecteur des déplacements de la matrice. Donc ici on a effectivement quelque chose qu'on appelle aujourd'hui advection, c'est-à-dire un transport de cellules au fur et à mesure en raison de on verra tout à l'heure les forces, en raison de des processus actifs associés à la migration cellulaire. Une cellule qui migre est un élément actif qui modifie son environnement et qui génère une advection, c'est-à-dire un transport de cellules adjacentes passivement. Et il y a aussi un autre élément qu'on appelle apoptosis, c'est-à-dire le fait que les cellules vont aimer migrer le long d'un gradient de matrice et remonter ce gradient, phénomène qui est bien caractérisé et que l'on voit ici. Donc le gradient de densité de matrice va définir en fait un terme de déplacement des cellules. Donc on voit ici un élément déjà d'auto-irrigation, c'est-à-dire que l'activité contractile des cellules génère passivement et activement par apoptosis une motilité dirigée qui va augmenter localement la concentration des cellules. Alors il y a ici maintenant, indépendamment du terme de mitose, sur lequel je ne vais pas commenter, ce terme qui semble très compliqué. Alors ici, il y a le terme de diffusion classique, d'accord, de cellules, c'est-à-dire imaginons des cellules qui ont une motricité aléatoire, d'accord. Et c'est ce que l'on voit ici, c'est la diffusion locale, par interaction locale des cellules. Mais il y a un second terme de diffusion qui est beaucoup plus compliqué, qui est une diffusion en fait, qui renvoie simplement à l'idée que les cellules interagissent les unes entre elles. On n'est pas dans un système de diffusion FIC dans lequel on dit qu'il y a dilution importante des agents. Ici, les interactions sont très proches entre les cellules. Il y a des collisions, il y a des interactions mécaniques. Et il y a également des interactions à longue portée. Pensez aux cellules qui ont des filipodes, qui peuvent interagir avec leurs voisines. Et cela donne naissance à un type de diffusion en fait, dit biharmonique qui, typiquement, en fait, s'oppose à la diffusion aléatoire parce qu'elle a un effet en fait, agrégatif. Donc en bleu, j'ai représenté les éléments agrégatifs qui sont dirigés ou aléatoires. Et cet article ici décrit en détail comment on peut retrouver la forme de cette loi de diffusion. Mais le point important, c'est qu'il y a des éléments aléatoires et des éléments dirigés, et surtout, en bleu, un élément auto-irrigatif, d'accord, et une diffusion qui va, au contraire, disperser. Et c'est la compétition entre ces deux phénomènes, en bleu et en rouge. Et le choix des couleurs en fait, n'est pas anodin, il correspond exactement au choix des couleurs d'activateur depuis le début de ce cours, en bleu pour l'activateur et en rouge pour l'inhibiteur. Et c'est la conservation, la compétition entre ces deux phénomènes qui va régir la dynamique du système. Alors, le point qui va être important dans la diapositive suivante, je ne sais pas si on voit la couleur en verte, ça semble difficilement visible, mais il y a ce terme de strain guidance en anglais, c'est-à-dire de guidage en fonction de la déformation de la matrice. On va voir en fait qu'une cellule qui contracte déforme la matrice et en vertu de la déformation de la matrice, elle modifie l'environnement de ses voisines et va avoir un effet sur ses diffusions et en particulier ses diffusions agrégatives ou antidiffusions, si l'on veut, des cellules. On avait vu ici les lois de conservation. Voyons maintenant les termes d'équilibre de force. Alors, on est dans un système où il n'y a pas d'inertie, donc la somme des forces est égale à zéro. Ici, on a le terme de traction. Une cellule est un agent actif qui contracte, d'accord, dont on voit ici le terme de traction tau, qui dépend de la densité de la matrice, du nombre de cellules, etc. Et le point important, c'est qu'il y a aussi évidemment des forces élastiques. Alors ici, on a quelque chose qui est lié en fait à la déformation de la matrice. Et ici, on a un terme de rapport de Poisson qui décrit simplement le fait qu'une matrice, c'est quelque chose quand on le tire le long d'un axe particulier, il va y avoir une déformation anisotrope de la matrice et qui elle-même génère en fait cet effet de guidage. C'est qu'on voit bien qu'on va non pas avoir une déformation isotrope, mais une déformation anisotrope. Et donc, c'est pour ça qu'on a deux termes dans cette description élastique dans laquelle on a un élément isotrope, un élément non isotrope. Et ici, on retrouve le module Young de la matrice qu'on peut modéliser. D'accord ? Et ici, il y a les termes des forces visqueuses qui aussi rentrent en compte. Mais le point important, c'est la compétition vraiment entre ces deux phénomènes. Et en voyant maintenant l'équation que l'on a vue à la page précédente, voyons finalement qualitativement les termes d'un ce qu'on peut décrire comme un feedback positif et négatif et la compétition entre les effets d'agrégation et d'inhibition liés à l'élasticité du système. Lorsque des cellules, aléatoirement dans le réseau, vont exercer une contraction sur la matrice extracellulaire, elles vont avoir un effet de déformation de la matrice extracellulaire. Cette déformation peut être décrite ici par le terme E, isotrope, également par un effet de dilatation, d'accord, qui va jouer sur le système également. Cette évolution de la déformation de la matrice va avoir un effet de guidage, va apporter d'une façon purement mécanique un effet de guidage. Ce n'est pas une espèce chimique qui va attirer les cellules, mais c'est l'orientation de la déformation de la matrice qui va créer des axes privilégiés de motilité cellulaire. Et donc la diffusion ne va pas être aléatoire, elle va être orientée selon un axe privilégié, soit de façon passive par apoptotaxie, soit active par apoptotaxie, soit de façon passive par advection, ou soit alors par le terme de diffusion agrégative ou antidiffusion, si vous voulez, qui dépend de façon critique de cette déformation de la matrice. Donc on voit ici les termes d'un positive feedback dans lesquels les cellules déforment l'environnement et vont permettre ainsi d'orienter la motilité cellulaire de différentes façons. Et c'est donc ce feedback en fait, qui est à l'origine de l'auto-amplification de la densité locale de cellules, d'accord, et qui crée cette instabilité spatiale à la Turing. Et on peut donc maintenant, et l'article en fait décrit, un terme de traction, un taux, qui est un paramètre sans dimension, qui dépend, dans lequel on voit que le terme de traction, la densité de la matrice, le nombre de cellules et le rapport de Poisson, en fait, jouent tous des rôles équivalents, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont dans la partie numérateur de cette équation, et l'élasticité de la matrice, au dénominateur, joue un rôle opposé, d'accord ? Donc c'est une compétition entre les phénomènes de traction qui sont d'autant plus associés aussi à la densité de la matrice, au nombre de cellules, tous ces éléments-là vont jouer un effet positif sur les forces de traction. Et en fait, ce rapport sans dimension, en fait, est lui-même prend en compte l'effet inhibiteur de l'élasticité qui résiste à ce phénomène. Donc voyons ici à droite qualitativement ce qui se passe. Lorsque la diffusion domine, le système, en fait, même si les cellules sont actives sur la matrice, en fait, elles vont pouvoir localement s'agréger. En revanche, si l'on commence à avoir une traction suffisamment importante, par exemple parce que la valeur de la traction est suffisamment importante, elles sont suffisamment contractiles, les cellules, ou que la densité de la matrice est plus importante, ou qu'il y a plus de cellules, à ce moment-là, les forces de guidage vont dominer sur les effets dispersifs de la diffusion, et donc on va commencer à avoir une agrégation locale. Si l'on augmente maintenant dans ces conditions l'élasticité de la matrice, c'est-à-dire quelque chose qui s'oppose au système, qui s'oppose à l'attraction, à ce moment-là, on va retrouver toujours des instabilités, mais la longueur caractéristique va être réduite, l'espacement va être réduit. Et donc, on voit ici des instabilités émerger, et les longueurs caractéristiques dépendent des valeurs relatives de l'élasticité, qui est un effet inhibiteur, qui va s'opposer au phénomène d'agrégation par rapport au phénomène autocatalytique de l'agrégation des cellules. Et on peut dériver même une longueur caractéristique dans ce système qui va dépendre aussi du nombre de cellules. Alors, on va donc ici retrouver le point important, c'est un motif qui ressemble à Turing, dans lequel l'effet à grande distance inhibiteur est celui en fait lié à l'élasticité du réseau. Donc on voit ici dans cet article une description qualitative de l'apparition de motifs spatiaux, et ici un dessin qui montre comment ils le voyaient in vitro dans sur leur surface viscoélastique, des agrégats de cellules avec des géométries alors qu'ils sont ici un peu idéalisés, mais qui de fait ressemblent en fait à un espacement quasi équidistant en forme d'hexagone, voilà, et qui correspond à ce type de motif dessiné ici. Alors j'aimerais pour finir sauter un certain nombre d'années et référer un article qui a été publié l'an dernier qui semble attester en fait expérimentalement de la validité de ce type de modèle de Turing pour expliquer de nature mécanique maintenant l'émergence de l'espacement entre les structures des agrégats de cellules qui sont en fait les bourgeons de production des plumes chez les oiseaux. Et donc c'est un article du laboratoire de Bridget Harland, le travail de Amy Shire, et on voit ici une coupe sagittale dans laquelle on voit ici des condensations de cellules mésenchymateuses qui apparaissent en quelques jours. Donc on est dans une échelle de temps finalement assez longue, hein, qui correspond en fait assez bien à ce qui a été décrit dans les travaux de Albert Harris précédemment. Et on voit ici, alors regardons d'abord en haut, l'effet, maintenant, les études en fait maintenant ont pris des explants de cet épiderme et les ont mis sur des substrats dont l'élasticité varie. D'accord ? Et donc on voit ici un test expérimental de l'idée que l'élasticité de la matrice s'oppose en fait à un effet autocatalytique d'agrégation cellulaire. D'accord ? Et on peut voir ici une augmentation de la l'élasticité de la matrice en augmentant vers la gauche, donc forte ici et de plus en plus faible. D'accord ? Donc on voit bien ici que plus la matrice est élastique, plus elle s'oppose à l'effet contractile qui existe dans ces cellules, et quand la matrice est très très souple, à ce moment-là, on a une agrégation extrêmement forte de l'ensemble. Regardons ici l'espacement et les tailles caractéristiques de ces agrégats. D'accord ? On peut voir de façon très claire qu'à mesure que l'élasticité augmente de la matrice, on voit l'espacement entre les différents bourgeons augmenter. Donc ça semble qualitativement en fait être cohérent avec les descriptions théoriques qui ont été vues avant dans les papiers de Albert Harris et de ses collègues, dans lesquels on voit que finalement la matrice joue un rôle organisateur important en s'opposant au phénomène d'agrégation. Alors, ces données maintenant étudient l'élément de traction, c'est-à-dire ce qu'ils modifient, c'est la contractilité des cellules. Les résultats sont à la fois simples et compliqués. Ils sont simples parce qu'ils montrent très clairement qu'en jouant sur la traction, en l'augmentant ici, on a ici une inhibition complète de myosine et ici une activation constitutive de myosine. Donc on voit bien ici l'effet attendu, c'est-à-dire une contraction de l'ensemble du tissu à mesure que l'on augmente la contractilité des cellules. Donc finalement, cela semble suggérer qu'il y a effectivement un jeu antagoniste entre les forces contractiles et de traction qui en émergent dans les cellules de cet épiderme et puis la résistance élastique de la matrice sur laquelle ces expériences sont réalisées. D'accord ? Quand on regarde néanmoins, et on voit d'ailleurs en section sagittale, l'épaississement en fait de l'épiderme à mesure que la contractilité des cellules est importante. C'est-à-dire qu'ici, avec une inhibition complète de myosine 2, on a un épiderme extrêmement fin. On a des condensations locales qui apparaissent à des valeurs intermédiaires de contractilité. Et quand la contractilité est constitutive et très forte, on a un épiderme extrêmement épais, sans motif. Et regardons ici, dans cette zone intermédiaire, l'émergence de bourgeons, de ces condensats de cellules, dont la taille et l'espacement nécessitent une valeur intermédiaire de la contractilité. Alors quand on regarde exactement les distances et la taille de ces agrégats, je ne pense pas qu'on puisse en voir quelque chose qui colle exactement avec les études que j'ai présentées précédemment, dans la mesure où, par exemple, il semble que l'espacement en fait augmente à mesure que l'on augmente la contractilité, alors qu'en fait, si c'est un effet autocatalytique, on s'attendrait plutôt à une agrégation plus importante. Donc, des choses qui demandent peut-être une étude plus en profondeur, mais néanmoins, qualitativement, on voit dans cette étude, clairement, l'effet antagoniste des forces de traction venant de la contractilité cellulaire, qui, si elles sont trop importantes, induisent en fait une instabilité très générale, sans motif particulier. Voilà ce que les données expérimentales montrent. À l'inverse, si les forces de traction sont très faibles, on a un système homogène, très fin, qui n'a aucune instabilité. Et dans des valeurs intermédiaires de forces contractiles dans les cellules et de la résistance mécanique liée à l'élasticité de la matrice, on a l'émergence d'agrégats dont la taille et la distance semblent en fait répondre aux interactions antagonistes entre l'élément autocatalytique lié à la traction des cellules et puis l'effet inhibiteur de l'élasticité qui résiste en fait à cette agrégation. Donc on voit ici des instabilités sous la forme d'instabilité de Turing dans lesquelles on a un effet antagoniste des forces contractiles et des forces inhibitrices liées à l'élasticité du réseau. Et on retrouve donc le même formalisme d'activateur local autocatalytique et d'inhibition à grande portée. Voilà, donc pour conclure ce cours, je voudrais résumer les choses importantes que nous avons vues. On peut raisonner en termes d'activation autocatalytique d'espèces chimiques, de production d'un inhibiteur. L'existence d'instabilité vient, dans un cas, de coefficients de diffusion différents entre l'activateur et l'inhibiteur, ou d'un activateur et de son substrat qui sera amené en fait à disparaître, d'accord, équivalent. Et puis des instabilités temporelles qui, dans le même schéma, viennent de valeurs relatives de vitesse de réaction autocatalytique et de l'inhibition, et avec l'existence d'un délai en particulier qui est à l'origine de systèmes excitables, bistables, excitables ou oscillants. Naturellement, ces deux systèmes peuvent se combiner et donner naissance donc, à toute la richesse des instabilités spatiales et temporelles que l'on voit dans les illustrations que j'ai montrées et que l'on verra plus dans les systèmes mécanochimiques la semaine prochaine. Et puis, comme je commençais à le voir avec vous, on peut maintenant raisonner de façon analogue dans les systèmes mécaniques dans lesquels la contractilité va donner naissance à des positifs feedback liés aux effets de traction des cellules et de déformation de la matrice qui modifient l'environnement et le comportement d'autres cellules à une certaine longueur. Et cette longueur, en fait, dépend de la résistance que lui oppose l'élasticité de la matrice dans des expériences in vitro et in vivo, la résistance élastique du tissu dans lequel ces processus se développent. Et donc, finalement, on voit ici l'utilité d'un formalisme général qui apprécie le rôle antagoniste entre deux réactions et voit naturellement émerger des motifs spatiaux. Alors, vous voyez, la grande question du développement est d'expliquer comment des motifs spatiaux émergent dans le temps, comment celles-ci peuvent se propager dans le temps. Et on peut voir, on a vu aujourd'hui, qu'elles peuvent se réaliser selon des processus de nature purement chimique, selon des processus purement mécaniques. Nous continuerons à voir la semaine prochaine d'autres modalités d'instabilité mécanique. Et puis maintenant, nous verrons comment l'intégration des deux, notamment dans les processus développementaux, donne vraiment naissance à toute la diversité des dynamiques cellulaires et tissulaires au cœur de la déformation des tissus. Voilà le menu de la semaine prochaine. Instabilité mécanochimique, la fin d'instabilité mécanique, et puis l'impact de ces processus dans les processus développementaux. Voilà, je vous remercie.